semaine d'actualité, David Baché.
Bonjour à tous et bienvenue dans une semaine d'actualité, l'émission qui revient sur les informations marquantes des 7 derniers jours. Espagne, États-Unis, Kenya, Mali, nous allons voyager sur les routes de l'actualité mondiale pendant près d'une heure, et cela en compagnie de Pierre Puchot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce livre, Le combat vous a été prescrit, qui vient de paraître chez Stock, une histoire du djihad en France, coécrite avec l'historien et islamologue Romain Caillet. Vous, Pierre Puchot, vous êtes journaliste. On a notamment pu vous lire sur Mediapart. Vous êtes basé à Paris, mais vous voyagez depuis une quinzaine d'années au Maghreb et au Moyen-Orient. C'est ce qui vous a amené à travailler, entre autres, sur la question du djihad et des djihadistes français dont il est question dans cet ouvrage et dont vous allez nous parler tout au long de cette émission. Une semaine d'actualité, c'est parti. Et pour commencer, direction l'Irak. Dimanche, Massoud Barzani annonce qu'il quitte la présidence du Kurdistan, une région autonome qu'il dirigeait depuis sa création il y a 12 ans. Cette annonce survient un mois après l'organisation d'un référendum sur l'indépendance du Kurdistan, à l'origine d'une crise profonde avec Bagdad. En quittant la présidence, Massoud Barzani laisse les Kurdes d'Irak dans le plus complet chaos interne. À Erbil, le reportage d'Oriane Verdier.
Devant une foule de journalistes, Omed Rochnao, le chef de liste parlementaire PDK, le parti de Massoud Barzani, tente de rassurer le peuple kurde.
Massoud Barzani reste de toute façon le leader charismatique du Kurdistan. Il continuera à servir en tant que Peshmerga. Rassurez-vous, il continuera jusqu'à ce que les Kurdes arrivent à la victoire totale.
La victoire semble cependant bien loin. S'il y a un mois, Massoud Barzani s'affichait en meneur du mouvement indépendantiste. Aujourd'hui, après 14 ans en tant que président du Kurdistan irakien, le bilan est dur, selon le parlementaire de l'opposition, Rabun Marouf.
Monsieur Massoud Barzani affirmait vouloir unifier les forces des Peshmerga, mais aujourd'hui, nous avons toujours plusieurs forces séparées. Il affirmait vouloir unifier le gouvernement du Kurdistan et lui-même avoue qu'il n'a pas pu le faire. Il voulait soi-disant rendre l'économie du Kurdistan indépendante, mais le cadeau de cette indépendance économique a été de diminuer de 60% le salaire des fonctionnaires. Aujourd'hui, après la catastrophe de Kirkuk, le gouvernement, la politique de M. Barzani et l'autorité des deux principaux partis, UPK et PDK, sont responsables de la situation dans laquelle se trouve le peuple kurde.
Le député ne pourra pas continuer son discours. Une vingtaine de journalistes et de forces de l'ordre se jettent sur lui et le frappent devant des gardes passifs. Voilà ce qu'il en coûte aujourd'hui d'oser critiquer le père du peuple kurde, Massoud Barzani.
Lundi, Carles Puigdemont, président destitué de la Généralité de Catalogne en Espagne, est arrivé en Belgique. Une fuite ou un exil que le meneur des indépendantistes catalans justifie par des raisons de sécurité, alors que la crise qu'il a allumée en Espagne est à son comble. Laxmi Lota, correspondante de RFI à Bruxelles, était présente lors de sa prise de parole.
C'est dans la bousculade que le président destitué de la Catalogne est arrivé au club de la presse de Bruxelles. Des centaines de journalistes sont venus écouter les explications de Carles Puigdemont. Ce dernier indique qu'il a choisi la capitale de l'Europe pour pouvoir s'exprimer librement.
Et moi-même, ma protection, ma sûreté a été énormément diminuée. Donc, il y a aussi des raisons pour agir de façon plus tranquille, avec plus sûreté.
Carles Puigdemont ne demande pas l'asile politique à la Belgique, il veut alerter l'Europe. Permettre à l'Espagne de ne pas dialoguer et de nous mettre en prison pour 30 ans, c'est une énorme erreur, lance-t-il. À l'extérieur du bâtiment, des manifestants, partisans de l'unité espagnole ou au contraire indépendantistes, sont aussi venus voir le président destitué.
Je suis une Catalane qui habite à Bruxelles, donc je suis venue ici pour offrir mon soutien au président de la Catalogne.
Cette personne a généré un très grand conflit à l'Espagne, à Catalogne. C'est pas normal qu'il vienne ici, à la Belgique, quand il doit aller à Madrid.
Carles Puigdemont et plusieurs anciens ministres du gouvernement catalan vont donc rester dans la capitale belge pour le moment, mais ils n'ont pas indiqué la durée de leur séjour.
Carles Puigdemont était convoqué par la justice espagnole jeudi. Il ne s'est pas présenté. 8 de ses ministres destitués ont quant à eux été placés en détention provisoire. On marque un premier temps d'arrêt avec vous, Pierre Puchaud, auteur de ce livre, Le combat vous a été prescrit, un livre pour lequel, avec Romain Caillet, vous vous êtes directement entretenu avec des djihadistes français, et cela en dehors de vous et de mon collègue de RFI, David Thompson, que je salue. Eh bien, ce n'est pas la qualité la plus répandue parmi les spécialistes, comme on dit, qui interviennent sur le sujet.
C'est-à-dire que c'est très difficile. Nous, ça nous a demandé d'abord le savoir-faire de Romain, dont on explique aussi le parcours dans l'introduction du livre. Et moi, de fait, qui travaille depuis 15 ans sur la région, il y a bien entendu des djihadistes que j'ai interrogés en dehors de France pour interroger des djihadistes aujourd'hui en France qui ne sont pas dans des cadres judiciarisés, que ce soit la prison ou dans des procès-verbaux de justice. C'est extrêmement compliqué. Ça nous a été possible parce qu'on avait un antécédent avec beaucoup de ces personnes et parce que, de fait, c'est une chaîne en fait de contacts qui nous a permis d'aboutir jusqu'à eux. Je donne un exemple. C'est un des combattants de Jabhat al-Nusra que j'interviewe sur Skype en décembre 2013. Il m'est présenté par un ancien membre de l'ASL que j'avais rencontré dans une katiba en septembre 2012 en allant donc dans la région d'Idlib pour Mediapart. J'étais journaliste Mediapart à l'époque. Donc voilà, c'est un cheminement qui est assez long. C'est pour ça que ce livre en fait vient maintenant. C'est parce qu'il vient mettre fin à une dizaine d'années d'enquête que nous avons fait sur le sujet avec Romain Caillet.
Donc ça veut dire des entretiens en personne avec certaines personnes qui se trouvent en France et d'autres sur Skype ou d'autres réseaux sociaux avec des gens qui se trouvent en Irak ou en Syrie par exemple.
Oui, c'est-à-dire que c'est pour les gens qui sont en Syrie depuis quelques années, c'est vrai que d'abord Facebook puis ensuite Twitter ont été censurés. Du coup Telegram a fourni le réseau social Telegram a fourni une bonne manière d'échanger avec eux, mais on a aussi échangé via la messagerie Twitter en DM des nuits entières avec quelques-uns d'entre eux. Ça n'a pas toujours été facile. On a essayé d'avoir des plages un peu longues. Malheureusement, on a souvent des collègues qui se concentrent uniquement sur des procès-verbaux de justice ou des informations, des renseignements, etc., etc. Le problème de ça, c'est pas que c'est pas du bon travail. Le problème, c'est que ça donne qu'un point de vue de la réalité. Quand un djihadiste répond à un juge, c'est pas la même chose, il va pas dire la même chose que quand il répond à un journaliste, en dehors de tout cadre judiciarisé, évidemment.
Vous écrivez, Pierre Puchaud, que cela fait 3 décennies que cette culture du djihad se développe en France. Pourtant, on entend surtout parler de radicalisation très rapide, avec des jeunes qui, bien souvent, se convertissent et partent au combat en quelques mois seulement. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'écrire ce livre?
Oui, en fait, on a employé cette fameuse formule « radicalisation express » pour résumer ce qui était pour beaucoup un nouveau phénomène, le djihadisme, et le djihadisme en particulier en France. Il faut comprendre que ces jeunes-là, même si, effectivement, pour certains d'entre eux, leur radicalisation se fait de manière rapide, ils s'appuient sur des individus qui, eux, ont assumé un corpus de textes et ont assumé un certain nombre de positionnements, y compris politiques, qui leur viennent de contact avec d'autres djihadistes, qui eux-mêmes se sont formés grâce à d'autres djihadistes, etc., etc. Tout ça s'est tressé depuis 30 ans, au contact aussi d'un corpus qui a évolué, d'un certain nombre de chiires qui ont évolué et dont le positionnement politique a évolué. Tout ça, c'est une longue histoire qui aboutit finalement à être comme ça un phénomène attractif pour des gens qui, du coup, se radicalisent en peu de temps. Mais l'intérêt et le cœur même de l'histoire du djihad en France et l'histoire du djihadisme en général, ce n'est pas ces quelques personnes qui sont parties en Syrie, en Irak, radicalisées en quelques mois. C'est bien cette histoire du djihad qui court depuis 30 ans. C'est ça qu'on a essayé de raconter dans ce livre, même si on aborde également quelques cas de radicalisés express, pour employer une expression que je n'aime pas.
On va avoir l'occasion de parler de ces différents profils. Pour le moment, on poursuit notre rétrospective de l'actualité internationale de la semaine, direction les États-Unis. L'enquête sur une possible ingérence russe dans la dernière élection présidentielle américaine avance à grands pas. Lundi, ce sont des très proches du président Donald Trump qui ont été formellement inculpés. Son directeur de campagne, son associé et surtout son ancien conseiller aux affaires étrangères, George Papadopoulos. Ces déclarations ont été rendues publiques par le procureur spécial en charge de l'affaire et Stéphanie Schuller de RFI les a lues pour nous.
En 14 pages, on apprend que George Papadopoulos, qui rejoint la campagne électorale du candidat Trump en mars 2016, cherche peu après le contact avec un mystérieux professeur basé à Londres. Celui-ci dispose de liens étroits avec les hautes sphères du gouvernement russe et le fait rencontrer une jeune femme. Présentée comme la nièce de Vladimir Poutine, celle-ci met George Papadopoulos en contact avec une personne au sein du ministère russe des Affaires étrangères. Le réseau ainsi constitué souhaite organiser une rencontre entre l'équipe de campagne de Donald Trump et des responsables russes. Fin avril 2016, le professeur apprend à George Papadopoulos que les Russes possèdent des informations compromettantes sur l'adversaire de Donald Trump, la candidate démocrate Hillary Clinton, des milliers de courriels. La déclaration ne précise pas l'usage qui en a été fait. L'aveu de contact presque quotidien entre un membre de l'équipe de campagne de Donald Trump et les Russes est explosif, d'autant plus que selon George Papadopoulos, ses supérieurs étaient non seulement au courant de ses agissements, mais les ont même encouragés.
Plusieurs attaques djihadistes cette semaine en Afghanistan, en Tunisie, au Mali, au Cameroun, des pays où les attaques sont fréquentes en raison de la présence de groupes islamistes armés. Un attentat également aux États-Unis, à New York. Mardi après-midi, un camion fonce sur la foule. 8 personnes tuées, 12 blessées. Marie Bourreau s'est rendue sur les lieux de l'attaque.
Des sirènes, des hélicoptères en vol stationnaire au-dessus des lieux de l'attaque, à quelques blocs seulement du site des attentats du 11 septembre 2001. New York a renoué hier avec le terrorisme et dans la foule des badauds qui assistent au balai des ambulances, des voitures de la police et du FBI. Jen, 18 ans, est encore choquée de ce qu'elle vient de voir.
J'ai vu un camion percuter des gens et j'ai vu des corps qui étaient couverts de sang au niveau de la poitrine. Et cela m'a traumatisée.
L'attaque a eu lieu dans le quartier très fréquenté de Tribeca, au sud-ouest de Manhattan, à proximité d'une des écoles publiques les plus cotées. Des centaines de jeunes se préparaient à aller fêter Halloween, comme Heidi, qui avec son maquillage de vampire, s'interroge maintenant sur le lieu et la date de cette attaque.
C'est très surprenant que cela soit arrivé dans une zone où je n'aurais jamais pensé que cela puisse se produire, particulièrement quand il y a autant d'enfants, de jeunes. C'est vraiment effrayant.
Mais comme toujours aux États-Unis, The show must go on et les New-Yorkais ont maintenu leur parade annuelle, bien décidés à ne pas laisser celui que les médias américains surnomment déjà le monstre d'Halloween leur voler cette fête si traditionnelle.
L'attentat revendiqué par le groupe État islamique a été perpétré par un homme de nationalité ouzbek. Âgé de 29 ans, il vit aux États-Unis depuis 2010. Le président Donald Trump a saisi l'occasion pour annoncer sa volonté de remettre en cause le système d'attribution des green cards qui permettent aux étrangers de séjourner aux États-Unis. Il n'est malheureusement pas très difficile, Pierre Puchot, de trouver des éléments d'actualité pour faire le lien avec votre livre « Le combat vous a été prescrit ». Vous y pointez dans ce livre l'hypocrisie des politiques occidentales qui soutiennent la démocratie dans les pays musulmans, sauf quand elles portent au pouvoir des personnages qui les inquiètent, par exemple Mohamed Morsi, issu des frères musulmans en Égypte. Alors, il ne s'agit évidemment pas de justifier les attaques terroristes, mais vous avez cherché à comprendre où et pourquoi elles surviennent.
Oui, c'est ça. Mais pour revenir sur l'Égypte, j'ai échangé aujourd'hui sur Twitter avec quelques connaisseurs fins de l'Égypte et on était tous d'accord sur ça. Après donc la visite du président Sissi, président égyptien Sissi en France, Emmanuel Macron a dit qu'il était ravi de le recevoir. Il faut se rendre compte quand même. Simplement quelque chose de factuel, c'est-à-dire comparons le nombre d'attentats qui ont eu lieu en Égypte entre la révolution égyptienne et le coup d'État contre, donc vous le disiez, Monsieur Morsi, voilà, et après le nombre d'attentats qu'il y a eu, il y en a eu beaucoup plus après le coup d'État. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on brandit Abdel Fattah Sissi comme le rempart contre le terrorisme, mais c'est tout le contraire. En écrasant les frères musulmans, en les tuant littéralement par centaines à l'été 2013, qu'est-ce qu'on a fait ? On a produit un éclatement d'une organisation qui fédérait une partie de l'islamisme radical et de la jeunesse surtout en Égypte, et on a produit comme ça un désespoir absolu dans tout le pays qui a poussé un certain nombre de ces jeunes vers des organisations du type Ansar Beit El Maqdis qui a rejoint l'État islamique depuis. Donc en fait,
on est passé de groupes radicaux mais non violents à des groupes djihadistes, c'est ça que vous dites ?
Pour résumer, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une politique qui consiste à dire on ne veut pas des frères musulmans au pouvoir parce que leur présence est une menace pour la liberté publique, et on produit un coup d'État qui en lui-même est une menace pour la liberté publique, qui produit 30 000 prisonniers politiques comme c'est le cas aujourd'hui en Égypte, et qui derrière met le pays à feu et à sang. Il n'y a jamais eu autant d'attentats aujourd'hui en Égypte, et depuis le coup d'État, c'était bien, voilà, la période en Égypte où il y a eu moins d'attentats dans l'histoire, c'est quand même entre 2011 et 2013, après la révolution encore une fois et avant le coup d'État.
Alors pour revenir aux sociétés occidentales, le terrorisme est le reflet de nos sociétés violentes, peut-on lire dans votre histoire du djihadisme en France. Ce que vous dites, c'est qu'il faut remettre en question les normes de nos sociétés occidentales qui seraient trop coupées de quoi ? Des musulmans spécifiquement ?
Il y a plusieurs problèmes. Hein. Cette phrase évoque plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est donc la diplomatie et victimes dont on ne parle pas, les victimes par exemple de l'offensive de la coalition menée par les Américains, les victimes civiles, elles sont nombreuses. Je me demande, par exemple, les cinquantaines de victimes qui sont mortes récemment, est-ce qu'elles ont fait la une d'un seul journal en France ? Je ne suis pas sûr. Il y a ça qui permet aux djihadistes de dire, ah, vous voyez, eux aussi font des victimes, mais voilà, ils ont un jugement asymétrique suivant que les victimes sont chez eux ou qui touchent des musulmans ou dans le monde arabe. Donc ça, c'est directement la propagande de l'État islamique et djihadiste. Mais il y a aussi ce qu'on produit en France en termes de marge sociale. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Une fois qu'on a dit qu'il y a un certain nombre de convertis qui ont été partie prenante du mouvement djihadiste, le gros du recrutement du mouvement djihadiste en France, c'est dans les zones défavorisées, dans les quartiers populaires. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ces quartiers populaires ? On supprime les contrats aidés, par exemple, qui sont quelque chose qui est absolument essentiel pour les associations de ces endroits-là. Et on crée toujours plus de misère, toujours plus de paupérisation, toujours plus de marginalisation. Si vous ajoutez à ça une notion qui est essentielle pour comprendre la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire l'islamophobie, qui continue d'être niée dans des grandes largeurs par une partie des médias, et qui continue d'être niée par des intellectuels médiatiques, des polémistes, etc., on aboutit à un climat, oui, qui produit des marges, à la fois sociales, mais aussi intellectuelles, et des discriminations, et à la marge de ces marges, il y a des gens qui sont intéressés, du coup, par le projet anti-société, anti-France, anti-capitaliste, proposé par l'État islamique et le mouvement djihadiste plus généralement.
Et ces phénomènes sociaux dont vous parlez, qui créent une rupture avec les jeunes, et notamment les jeunes issus du monde islamique, et elle est particulièrement forte en France, plus qu'ailleurs ?
De fait, c'est une constatation qu'on peut voir. Les djihadistes britanniques, par exemple, avant l'entrée dans la coalition, étaient beaucoup moins motivés pour frapper leur territoire que les Français. Les Français avaient déjà une certaine volonté de frapper la France, comme par exemple ça s'est passé avec Mohamed Merah.
Mercredi, l'autorité palestinienne a repris le contrôle des points de passage de Gaza. Ils étaient jusqu'alors entre les mains du Hamas, qui contrôle l'enclave palestinienne. Il faudra encore attendre un peu pour que le même passage de relais soit effectué à la frontière avec l'Égypte. Un assouplissement qui découle du rapprochement survenu ces dernières semaines entre le Fatah et le Hamas, et qui vient simplifier quelque peu la vie des Palestiniens. Le reportage sur place de Guilhem Delteille.
Depuis 10 ans, avant d'accéder au poste de contrôle israélien, les Gazaouis devaient passer 2 étapes. Le poste du Hamas, Arba Arba, et celui de l'autorité palestinienne, Khamsa Khamsa. Depuis ce mercredi, ils peuvent se rendre directement au second. Et pour Fatiha Alastar, c'est un soulagement.
Nous avions souvent des problèmes à Arba Arba. C'était très difficile. Je souffre d'un cancer, je dois aller suivre un traitement à Jérusalem et puis revenir ici. Et parfois, à cause de toutes ces procédures, je me mettais à pleurer.
Car le passage d'Arba Arba pouvait se révéler être une véritable épreuve, se souvient Walid Abouda, un jeune homme de 22 ans, membre de l'équipe nationale de football.
En 2012, et il y a un mois encore, alors que nous allions jouer un match contre une autre république en Cisjordanie, nous avons dû attendre pendant longtemps, pendant près de 4 heures.
Mais la destruction du poste frontière du Hamas ne marque pas la fin de toutes les difficultés. Ce mercredi, Salha Abou Zaïd devait accompagner sa petite fille à l'hôpital à Jérusalem. Mais malgré leur permis, cette femme de 69 ans et l'adolescente de 15 ans n'ont pas pu passer le poste de contrôle israélien.
Nous sommes arrivés au poste israélien. Nous avons attendu 2 heures et ils nous ont empêchés de passer. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont bloqués.
Il y a l'actualité de la semaine et puis il y a l'actualité du jour. Tout de suite, un flash d'information. On se retrouve juste après, toujours en votre compagnie, Pierre Puchot, pour la seconde partie de l'émission consacrée à la France et surtout à l'Afrique. C'est dans 3 minutes. À tout de suite. Une semaine d'actualité, seconde partie, un peu d'actu française, beaucoup d'actu africaine, c'est le principe, comme chaque semaine. Avec nous dans le studio 43 de la rédaction de RFI, Pierre Puchot, tout se passe bien ?
Tout va bien.
Je rappelle que vous êtes journaliste et co-auteur du livre « Le combat vous a été prescrit ». Nous allons continuer de commenter ensemble cette histoire du djihad en France.
Une semaine d'actualité.
Mais pour commencer, cette date, mardi 31 octobre, fin officielle de l'état d'urgence en France, état d'urgence qui était entré en vigueur il y a presque 2 ans, son bilan dressé par Simon Rosé.
1 an, 11 mois, 18 jours, prolongé à 6 reprises depuis le 13 novembre 2015, c'est un état d'urgence record qui s'achève, avec derrière lui un bilan mitigé. L'une de ses principales dispositions, la perquisition administrative sans contrôle a priori d'un juge, a été très utilisée, 4600 fois au total. Mais voilà, seulement 1 millier de ces perquisitions a conduit à l'ouverture d'une enquête judiciaire et parmi elles, seules 23 relèvent du terrorisme. L'explication est simple, utilisées en cas de soupçon, elles ont plus concerner des apologies du terrorisme ou des consultations de sites djihadistes que des projets d'attentats. Elles ont tout de même alimenté le renseignement. Les saisies de matériel informatique ont par exemple permis d'identifier des réseaux. Malgré cela, l'état d'urgence n'a pas empêché les tueries. Nice, le 14 juillet 2016, 86 victimes, l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray ou encore le meurtre de 2 policiers à Magnanville. Les Français restent cependant attachés à l'état d'urgence face à une menace terroriste qu'ils considèrent toujours aussi élevée. Les 3/4 d'entre eux souhaitent son maintien, voire son renforcement.
Pierre Puchot, la fin de l'état d'urgence, la loi antiterroriste qui va la remplacer. Je ne vais pas vous demander ce que vous en pensez, je préfère directement citer ce passage de votre livre. « Pansement de nos failles géopolitiques et sociétales, le tout sécuritaire fait mal son office ». La politique française, Pierre Puchot, la réponse qu'elle apporte aujourd'hui, elle n'est pas à la hauteur selon vous ?
Je préfère citer quelqu'un que j'aurais pas forcément cru citer un jour dans une interview qui s'appelle Jacques Toubon, en fait, qui est défenseur des droits, qui parlait de l'entrée dans l'ère du soupçon au moment de la mise en place de l'état d'urgence et qui aujourd'hui nous dit, donc je le cite, nous trouvons dans la nouvelle loi les ingrédients d'une caractérisation essentialiste d'une minorité de la population assimilée à une classe dangereuse. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'a pas arrêté les attentats grâce à l'état d'urgence. D'un côté, et de l'autre, la nouvelle loi sur la sécurité intérieure, elle permet quoi ? Elle permet une fois de plus de déclasser une partie des gens de la société française, de pointer du doigt une partie des gens de la société française, de dire il y a 2 sociétés françaises, il y a celle qui est acceptable et celle qui est potentiellement dangereuse. Je pense que quand on a dit ça, on a à peu près tout dit.
On reste en France, on reste dans la djihadosphère avec ce procès, celui d'Abdelkader Merah, qui a comparu devant la cour d'assises de Paris pour ses liens avec les réseaux djihadistes et pour sa possible complicité dans les 7 assassinats perpétrés par son frère Mohamed Merah. C'était en mars 2012 à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Jeudi soir, la justice française a rendu son verdict. Pierre-Olivier.
Abdelkader Merah condamné à 20 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroristes. C'est la peine maximale encourue, se félicite Ariel Goldman, avocat de la famille Sandler.
La cour d'appel spéciale de Paris n'a pas plié ni cédé ni devant les terroristes de tout poil, ni devant certaines menaces qui avaient pu lui être de façon voilée adressées.
Abdelkader Merah condamné, mais aussi acquitté par manque de preuves pour complicité d'assassinat, l'avocat de la défense Éric Dupond-Moretti salue lui aussi la décision rendue.
La cour d'assises a rappelé que même dans les affaires de terrorisme les plus graves, la preuve et la règle de droit n'étaient pas reléguées au rang d'accessoire. Les juges, et c'est leur honneur, ont résisté à la pression de l'opinion publique.
Parties civiles et familles, elles, attendaient plus la réclusion à perpétuité. Latifa Imziatem, la mère de la première victime de Mohamed Merah, sort de la salle d'assises en larmes.
C'est pas ça que j'attendais. Je pense que on n'a pas été jusqu'au bout. Mon fils, il est mort debout. Il n'est pas mort pour rien. On doit se réveiller.
Même si certains proches des victimes espéraient une peine plus lourde, tous reconnaissent qu'avec cette décision, ils vont enfin pouvoir commencer leur deuil.
Pierre Puchaud, ce procès, j'imagine que ça intéresse forcément le journaliste que vous êtes, vous qui travaillez sur les djihadistes de France. Est-ce que vous l'avez suivi ?
Oui, bien sûr, d'autant qu'on parle évidemment de Mohamed Merah dans cette histoire du djihad de France. Bon, il y a deux choses. Il y a d'abord l'émotion qui est c'est terrible, évidemment. Et je crois que le procès a été justement très porteur de cette émotion. 5 semaines, très très long, etc. Mais il y a aussi qui est Mohamed Merah et dans quel contexte il se replace, dans quelle histoire il se replace. Il faut se souvenir notamment des paroles rapportées par ce médecin de Médecins du Monde qui revient de Syrie et qui dit avoir soigné un djihadiste qui lui a dit l'exemple c'est Mohamed Merah. Il faut bien se rendre compte de quel moment on est. On est dans un moment où quelqu'un qui va résister à l'État français les armes à la main, ça va être pris comme un héros par une partie de ces quelques centaines, de ces quelques milliers de sympathisants et de militants djihadistes de français. Pourquoi ? Parce que justement il résiste à un État, parce qu'il régit justement à un ordre social que eux-mêmes le critiquent. Dans ce contexte-là, la question, c'est comment est-ce qu'on fait demain pour empêcher que ces mêmes sympathisants, voilà, prennent les armes comme Mohamed Merah l'a fait et commettent des abominations et des crimes comme Mohamed Merah l'a fait. Ça, c'est ça la question. Voilà. Une fois qu'on a dépassé l'émotion et le verdict en lui-même.
Vous faites remonter votre histoire du djihad en France à l'année 1992, précisément, lorsque le Front islamique du salut, qui a remporté 2 élections en Algérie, est interdit et ses membres persécutés par le régime militaire d'Alger. Dans la foulée, c'est la création du GIA, le groupe islamiste armé, et c'est lui qui va mettre en place, Pierre Puchaud, des relais dans l'Hexagone.
C'est-à-dire que c'est un peu toujours la même histoire, finalement. C'est une parodie de processus démocratique qui, quand il a lieu, est interrompu par une organisation étatique militaire. L'Algérie, on parlait de l'Égypte avant, c'est un peu la même chose, c'est un peu le parallèle en tout cas peut être fait. Et derrière, une population entière, notamment les Algériens de France, qui se sentent complètement floués, qui se disent « Ah, en Algérie, il se passait quelque chose, une Algérie future, nouvelle, différente de ce FLN vieillissant et dont le projet nous parlait plus, peut-être créé maintenant, on va pouvoir y participer. Ah non, d'un coup, plus de processus démocratique, les militants du FIS en prison. » Et bah quand effectivement des représentants du FIS viennent en France pour leur dire oui, il faut les aider, etc., effectivement, il y a beaucoup d'Algériens qui sont sensibles à ce discours et qui donnent le petit billet pour aider. Après, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que face à la répression armée, face à la répression tout court, s'enclenche une spirale de violence qui fait que c'est toujours le plus radicalisé qu'à raison. Et donc, le FIS va être dépassé, ça va être le GIA. Donc, une partie des Algériens en France vont plus donner au FIS, mais au GIA, parce que le FIS, de fait, va disparaître et va apparaître has-been pour un certain nombre de militants. C'est comme ça, en fait, que les filières de soutien au GIA s'importent en France, et c'est comme ça que le djihad s'importe en France dans les années 90.
Alors, on replonge avec votre livre dans la période des attentats de 95. Vous avez rencontré plusieurs acteurs de l'époque, combattants, policiers, juges, et leurs témoignages sont passionnants. Mais ce qui fascine, au-delà de la reconstitution des faits, c'est cette proximité que l'on découvre entre les motivations des djihadistes français de l'époque, ceux du GIA, et les frères Kouachi, les tueurs de Charlie Hebdo au nom d'Al-Qaïda. Et ça, c'est un djihadiste repenti des années 90 qui vous l'explique.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les djihadistes, en fait, souvent, c'est intéressant de les examiner du point de vue individuel. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Louis Bruguière, qui était juge dans les années 90 et qui a bien identifié à l'époque cette caractère individuel, en fait, du mouvement. C'est des parcours individuels greffés sur une idéologie qui continue à se constituer, qui rencontre un moment politique important, un projet politique important, le GIA dans les années 90, Al-Qaïda dans les années 2000 et l'État islamique aujourd'hui. C'est ce moment-là qui produit les moments de grande tension, comme on les vit depuis 2 ans, les attentats du 13 novembre 2015, etc. C'est comme ça que se construit le mouvement djihadiste et c'est ça qui fait que le mouvement djihadiste a pris une telle place dans notre société aujourd'hui.
Et c'est ce qui fait que le combat d'hier fait écho aux combattants d'aujourd'hui.
C'est ce qui fait qu'il y a une mémoire aujourd'hui du mouvement djihadiste. C'est ça qu'il faut bien comprendre et c'est ça qu'on met pas suffisamment en avant. C'est-à-dire que pendant que nous, on est dans la gestion quotidienne des événements, des attentats, des drames, des familles entières qui sont endeuillées et tout ça, l'organisation djihadiste, les organisations djihadistes, elles font appel à une mémoire des combattants pour tresser comme ça une sorte de martyrologie aussi du mouvement djihadiste. Donc on est vraiment dans 2 temps différents et eux ont envisagé déjà le temps d'après, nous malheureusement pas encore.
L'actualité du continent africain à présent et cette interpellation dimanche dernier, celle de François Compaoré, frère de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré. Il a été interpellé dans un aéroport parisien en vertu du mandat d'arrêt international émis à son encontre par le Burkina Faso. François Compaoré est poursuivi par la justice de son pays dans le cadre de l'affaire Norbert Zongo, journaliste d'investigation, assassiné en 98 près de Ouagadougou. Yaya Boudani, correspondant de RFI au Burkina, nous explique les raisons de cette interpellation.
Le nom de François Compaoré est lié au dossier Norbert Zongo depuis 1998. La commission d'enquête mise en place au lendemain de l'assassinat de Norbert Zongo et ses compagnons avait conclu que Norbert Zongo avait été assassiné parce qu'il enquêtait sur la mort de David Ouédraogo, le chauffeur de François Compaoré. Ses compagnons avaient été tués pour ne pas laisser de témoins gênants selon la commission. Cette commission avait désigné 6 militaires de l'ex-garde de Blaise Compaoré comme étant des suspects sérieux dans l'assassinat du journaliste. Mais en 2006, la justice déclarait un non-lieu dans le dossier et promettait de l'ouvrir en cas de fait nouveau. À la faveur de l'insurrection populaire et la chute de Blaise Compaoré, le dossier a été rouvert et plusieurs personnes ont été entendues. 3 militaires membres de l'ex-garde présidentielle ont été inculpés et mis sous mandat de dépôt. Le 5 mai dernier, la justice burkinabé avait lancé un mandat d'arrêt international contre le frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré et c'est suite à ce mandat qu'il a été interpellé. François Compaoré est poursuivi pour incitation à assassinat. Selon les avocats de la famille Zongo, c'est le frère cadet de l'ancien président qui a poussé les soldats à commettre les assassinats de Norbert Zongo et ses compagnons.
François Compaoré a été laissé en liberté par la justice française le temps d'examiner la demande d'extradition formulée par le Burkina Faso. Des autorités burkinabées qui sont également concernées par cette annonce faite lundi par les États-Unis, 60 millions de dollars seront consacrés au G5 Sahel. Une décision à rebours des réticences jusque-là affichées par Washington sur la création de cette force antiterroriste africaine qui rassemble le Mali, le Burkina, le Tchad, le Niger et la Mauritanie. Mais si Washington consent à cette aide unilatérale, la France, qui vient de prendre la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, plaide quant à elle pour une approche collective. Les précisions de Marie Bourreau.
Sur le fond, l'inflexion est notable. Washington menaçait de mettre son veto au mois de juin dernier si l'ONU finançait cette force du G5 Sahel. 4 mois plus tard, l'annonce de cette aide de 60 millions de dollars prouve que les Américains reconnaissent l'urgence de rétablir la sécurité dans la région. Et cela d'autant plus qu'ils ont perdu 4 hommes des forces spéciales début octobre. Mais c'est sur la forme que Washington s'oppose à l'ensemble de ses partenaires du Conseil de sécurité et des pays membres du G5 Sahel. Les Américains refusent que cet argent soit investi dans le circuit onusien. Washington préfère donner une aide directe sans préciser comment ces fonds seront divisés entre le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Mais au sortir de la réunion, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, a tout de même estimé qu'une porte restait ouverte pour aboutir à un compromis. Il a annoncé que Paris travaillerait à une nouvelle résolution pour permettre à la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, d'aider logistiquement et opérationnellement le G5, notamment à travers des évacuations médicales ou du réapprovisionnement en fuel. On est bien loin des recommandations du secrétaire général qui a appeler les États membres à être ambitieux et qui préconisait la création d'un bureau régional des Nations Unies pour le Sahel.
Et mercredi, une première manœuvre conjointe du G5 Sahel et de l'armée française a été organisée à la frontière commune du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Des exercices de reconnaissance censés lancer symboliquement le déploiement de cette force dans la région. Au Kenya, une parodie d'élection. Ce sont les mots prononcés mardi par l'opposant Raila Odinga qui conteste la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta. Une victoire en deux temps avec un premier scrutin annulé en raison de fraude et un second scrutin boycotté par le chef de l'opposition. Sébastien Nemeth, à Nairobi, a suivi sa déclaration.
C'est une stratégie sur le long terme qu'a présenté Raila Odinga. Pour cela, une série d'organes seront chargés d'organiser son programme national de résistance. Une branche de sa coalition NASA organisera des boycotts économiques ou encore des manifestations. Il a aussi annoncé la création d'une assemblée du peuple où se mélangeront des travailleurs, la société civile, des religieux, des femmes ou encore des jeunes. À l'intérieur de ce forum, une task force destinée à examiner les faiblesses dans la gouvernance du pays, dans les institutions, dans les agences de sécurité ou encore dans l'utilisation de l'argent public. Pour autant, cette stratégie laisse une impression d'inachevé. Quid des recours judiciaires devant la Cour suprême ? Raila Odinga n'a rien dit. Les élus d'opposition expliquent que n'importe quel citoyen peut déposer un dossier sans être clair sur les intentions de la NASA. La stratégie a pour objectif d'obtenir des élections libres et crédibles. Mais pour quand ? Dans les 3 mois, comme il l'avait demandé il y a quelques jours, ou bien pour 2022 ? Là encore, pas de réponse du chef de l'opposition. Cette stratégie vise aussi à harceler le pouvoir, à le mettre sous pression pour obtenir des réformes. Mais la NASA en a-t-elle les moyens alors qu'elle est minoritaire à l'Assemblée? Beaucoup de militants sont prêts à suivre les consignes données par Raila Odinga. Mais hier, après son discours, l'un d'eux confiait qu'il ne savait pas quelle attitude adopter.
Pierre Puchot, vous êtes sur le plateau d'une semaine d'actualité à l'occasion de la sortie de votre livre « Le combat vous a été prescrit », coécrit avec l'islamologue Romain Caillet, un livre qui revient sur les origines historiques du djihadisme en France. Vous consacrez un chapitre entier à Adrien Guial, grandi en banlieue parisienne, converti à 19 ans et devenu à la trentaine le prédicateur français du groupe État islamique. Avec cet objectif, je vous cite, « se tenir proche d'une jeunesse française » qu'il cherche à séduire et à attirer dans le giron du groupe État islamique. Quels sont ses arguments, Pierre Puchot? De quoi est fait son discours?
Son discours, pour quelqu'un qui, encore jusqu'à encore août 2017, présentait en fait le journal en français de la radio El Bayan, hein, donc la radio de l'État islamique. Son objectif, en fait, c'est de viser très précisément la jeunesse française dont on parlait tout à l'heure, qui est déclassée, qui est aux marges, qui ne se reconnaît pas dans la société française telle qu'elle existe aujourd'hui, avec tout un ressort de, notamment sur l'islamophobie, de dire toujours la même chose, c'est-à-dire, vous musulmans, vous ne serez jamais acceptés en France, donc rejoignez-nous. Ce message-là, il est très fort et il porte, c'est pour ça qu'il faut l'entendre. Une partie des arguments, en fait, des djihadistes qu'on a rencontrés, c'est l'islamophobie, c'est quelque chose d'important. L'autre plan, en fait, de qui est intéressant à examiner quand on parle d'Adrien Guial, c'est de voir, en fait, son corpus idéologique. C'est quelqu'un qui, il y a des Français, notamment, qui sont plus calés que lui en théologie, mais lui est assez calé et il a comme ça, tout au long des années 2000, essaimé parmi les différents forums djihadistes pour être référent, par exemple, du forum Ansar el-Haq, qui est un forum qui, historiquement, en fait, est très important dans l'histoire du djihad en France. C'était un des administrateurs de ce forum-là. Avant de partir, justement, à l'État islamique, il s'en est occupé. Il a donc contribué à former énormément de djihadistes sur le sol français et, de fait, a pris une part importante au sein de l'EI quand il est arrivé en Syrie à partir de la moitié des années de 2010.
Ça veut dire que, contrairement aux radicalisés express qu'on a mentionné rapidement tout à l'heure, il y a des djihadistes français qui sont véritablement des érudits en termes de culture islamique.
C'est toujours pareil. Pour qu'un mouvement se constitue, il faut qu'il se constitue autour d'un corpus idéologique et d'individus. C'est un peu ce que dit Habermas quand il parle de personnes référentes, en fait. C'est des gens qui agglomèrent un savoir et imaginent la cohérence d'un projet politique ou du moins le rejoignent et l'adaptent au goût du jour et de fait distillent ensuite leurs opinions, leur parti pris, leur vision du temps politique et du temps religieux dans lequel on se trouve. Adrien Guial fait partie d'eux. Il a, avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Thomas Barnoin notamment, produit toute une glose, en fait, toute une exégète du Coran adaptée à l'idéologie extrémiste de l'État islamique et l'a fait vivre. Et ça a été aussi un des ressorts importants sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Ça a été un des ressorts importants de l'attraction de l'État islamique auprès d'une minorité de la jeunesse française.
Cela a fait 4 ans, jour pour jour, ce jeudi 2 novembre, que nos collègues Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été enlevés dans le nord du Mali, puis assassinés. Ils étaient en reportage à Kidal. Leur assassinat a été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. 4 ans après, on ne connaît toujours pas les circonstances exactes de leur mort, ce qui a conduit leurs ravisseurs à les tuer. Le rôle de l'armée française, les liens possibles avec la libération des otages d'Arlit, beaucoup de pistes n'ont pas été explorées, beaucoup d'acteurs n'ont pas été interrogés. Le point sur une enquête qui piétine avec Marie-Pierre Olfan.
Les questions essentielles demeurent toujours 4 ans après le drame. Pourquoi Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont-ils été enlevés et par qui? Ont-ils été trahis, comme l'a répété à plusieurs reprises le ministre de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian, sans jamais en dire plus? Et si oui, par qui? Autre interrogation, celle liée à la présence d'un hélicoptère dans le ciel de Kidal au moment de l'assassinat de nos confrères et qui pourrait avoir fait paniquer les ravisseurs. Vraisemblablement, l'appareil appartiendrait à la MINUSMA, selon les informations relayées par les avocats, mais aucune certitude à ce jour. L'enlèvement de nos confrères est-il lié aux tractations qui ont abouti à la libération des otages d'Arlit 4 jours plus tôt, comme le suggère un reportage diffusé en janvier dernier sur la chaîne France 2. La piste est en tout cas aujourd'hui écartée par le juge Herbeau, au regret de certains proches des victimes qui s'interrogent toujours sur un possible lien entre les deux dossiers. 4 ans après, il reste enfin des incertitudes sur le nom de toutes les personnes impliquées dans la disparition des envoyés spéciaux de RFI et sur l'état civil précis de ceux qui ont déjà été identifiés.
Les proches de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, famille, amis et collègues de RFI, continuent de dénoncer un secret d'État et de se battre pour obtenir la vérité et la justice. Dans votre livre, Pierre Puchot, vous notez une évolution sociologique chez les djihadistes de France, avec une distinction qui m'a assez interpellé. Vous écrivez que l'on est passé des blédards dans les années 90 aux rebeux dans les années 2000. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'on est passé, en fait, dans les années 90, d'un mouvement très influencé par le GIA, avec donc des arabophones qui ont, pour certains, grandi sur le territoire français, mais qui sont originaires, en fait, des pays, notamment du Maghreb, et qui ont ce savoir un petit peu religieux qu'ils distillent dans des cercles assez restreints en arabe et dans un français plus ou moins correct et évolué, à un autre type d'apprentis djihadistes qui sont au contraire des Français qui sont nés en France et qui en fait font d'une force leur langue française et leur capacité à discuter avec la jeunesse tout en possédant une partie du corpus djihadiste et qui donc va comme ça prendre le relais de ces arabophones et de cette génération influencée par le GIA et qui elle était née dans les pays du Maghreb avant d'émigrer en France. Donc c'est ce passage de relais. Et qu'est-ce qui fait que ce passage de relais existe ? C'est l'apparition d'Internet notamment et des forums djihadistes, dont le fameux forum Ansar al-Haq. Il faut bien comprendre en fait que ce passage de relais, c'est un passage technologique d'un point de vue, mais c'est aussi un passage de génération du GIA vers la génération Al-Qaïda. On est vraiment dans un temps différent qu'on a symbolisé par cette remarque entre blédard et rebeu, qui sont des termes qui sont repris par les djihadistes eux-mêmes.
Il y a aussi un pont entre ces deux mondes, un homme dont vous faites le portrait en forme de chaînon, c'est Jamel Begal, alias Abou Hamza.
Oui, alors Jamel Begal, il a cette particularité d'avoir été partie prenante des GIA et d'avoir aussi côtoyé Hamedi Koulibaly et les frères Kouachi qui sont venus le voir en fait à sa sortie de prison. Donc c'est quelqu'un qui mais il y en a d'autres comme Farid Melouk par exemple, qui est quelqu'un qui était au GIA aussi et qui aujourd'hui est en Syrie avec l'État islamique. Il y a beaucoup de personnalités comme ça, de personnalités djihadistes qui font le lien entre cette époque-là du GIA et la Syrie et l'Irak aujourd'hui.
Des journées villes mortes au Congo-Kinshasa pour réclamer le départ du président Kabila et l'organisation d'une élection présidentielle sans cesse repoussée par le pouvoir en place. Ces actions ont émaillé la semaine dans plusieurs villes de province, Bukavu, Kisangani, Lubumbashi ou encore Goma, où le mouvement a dégénéré, faisant 4 morts. Ces appels à l'alternance démocratique ont été lancés par la société civile qui aimerait bien que les politiques en fassent autant. Jeudi sur RFI, Sonia Rollet.
Sans les mouvements citoyens, on ne saurait même pas qu'il y a une répression au Congo, commentaire d'un diplomate occidental. Depuis le 19 septembre 2016, l'opposition n'a plus ouvertement appelé à manifester, pas même le 19 décembre, date officielle de la fin du deuxième et dernier mandat constitutionnel de Joseph Kabila. Il faut dire que toute manifestation hostile au gouvernement est de facto interdite depuis plus d'un an. Et depuis, quelques journées villes mortes, des meetings rapidement avortés en raison du déploiement des forces de sécurité. On essaie de bousculer les politiques depuis des mois, mais eux, ils ne se bousculent pas, alors on a été obligé de faire sans eux, commente un membre des mouvements citoyens. Ils nous expliquent qu'ils vont fixer un plan d'action final ce week-end, mais c'est ce qu'ils disaient déjà la dernière fois, poursuit ce jeune activiste. Officiellement, du côté du rassemblement de l'opposition, on sensibilise depuis près de 2 mois déjà, mais sans jamais annoncer de date pourtant plusieurs fois fixée pour la première manifestation de 2017. C'est pour éviter que les autorités ne préparent leur riposte, précise un leader du rassemblement. Sans date, on mobilise dans le vide, se désespère un autre. Finalement, au niveau local ou sur l'initiative d'un parti ou d'un autre, des politiques se sont ralliés à des actions des mouvements citoyens ces derniers mois, comme les CID à Goma ou l'UNC à Bukavu. En attendant, une hypothétique annonce du plan d'action que l'on promet à nouveau et au plus tard pour la semaine prochaine.
Pierre Puchot, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre sur le djihad en France, Le combat vous a été prescrit, dans lequel vous consacrez tout un chapitre à Internet, vecteur de l'explosion du phénomène djihadiste. Ça a commencé avec les forums de discussion, on en a parlé, ça s'est poursuivi bien sûr avec Facebook et Twitter.
Oui, alors les forums de discussion, on est passé des forums qui étaient essentiellement des forums où venaient se regrouper des gens d'un peu de courants musulmans radicaux, et pas forcément radicaux d'ailleurs pour une minorité d'entre eux, à des forums spécifiquement djihadistes comme le forum Ansar el-Haq. Par la suite, quand les réseaux sociaux sont apparus, ça a été un effet d'aubaine incroyable pour le mouvement djihadiste qui a pu toucher une catégorie de la population qui n'aurait jamais pu toucher dans les forums qui, par définition, nécessitaient qu'on s'y intéresse pour qu'ils existent et pour pouvoir échanger. Avec Facebook, on peut délivrer de la propagande en ligne au biais de vidéos, avec un certain nombre d'articles comme ça, et ça a produit un effet assez incroyable auprès d'une jeunesse en fait qui n'aurait jamais été d'elle-même sur un forum djihadiste comme Ansar el-Haq. Une fois que Facebook a compris ça et qu'au milieu des années 2014 à peu près, Facebook a censuré les comptes, les djihadistes sont passés sur Twitter. Une fois que les comptes Twitter ont été censurés, on est passé sur Telegram.
Un dernier mot en conclusion sur la politique française de déradicalisation. Vous la jugez vouée à l'échec, Pierre Puchot. Pourquoi ?
Quand il y a eu le 13 novembre 2015, le gouvernement a été obligé de réagir avec les moyens qu'il avait, donc de proposer comme ça une sorte de politique de déradicalisation. Le problème, c'est qu'on ne déradicalise pas sur commande la déradicalisation. Tous les programmes l'ont prouvé, y compris les programmes saoudiens, qui sont tous des faillites rocambolesques, certaines, puisque on a trouvé quand même des djihadistes qui sortaient des programmes saoudiens, qui sont ensuite partis au Yémen et qui sont devenus émirs au Yémen pour l'un d'entre eux. Le problème, c'est que pour se déradicaliser, il faut le vouloir. C'est une question personnelle. Voilà, c'est le djihadiste lui-même qui va décider de prendre une autre voie, d'aller vers une autre voie, une autre lecture de l'islam ou une autre lecture de la société en général. C'est lui qui va pouvoir le décider. C'est pas une séance de psychothérapie ou qui va en décider à sa place. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On ne déradicalise pas sur commande.
Un grand merci, Pierre Puchot, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Le combat vous a été prescrit, une histoire du djihad en France. Merci à Steven Elsley, à la réalisation, et merci à vous tous, chers auditeurs, d'avoir été à nos côtés. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr. N'hésitez pas à nous écrire par mail, semaine.actu@rfi.fr, ou sur la page Facebook, justement, de l'émission. La semaine prochaine, vous retrouverez Pierre-Edouard Deldic. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Profitez-en, amusez-vous, soyez sérieux et soyez heureux. À très vite.